France Inter. .fr.
CO2 mon amour. Avec Ocofen, chaudière à granulés de bois. Chauffage central écologique et économique. Rendez-vous sur ocofen.fr.
Ça se reconnaît en écologie.
Encore des mouvements de colère des routiers en France.
CO2.
Contre le prix élevé du gazole.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être.
Le bonus automobile plombe les comptes de l'État.
En amour.
Oui, il y a urgence à agir pour sauver la planète.
Denis Chessou.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie modestement, une émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite, avec aujourd'hui Dofar Guérid et Fabien Laléouze à la technique, et assisté de Stéphane Combes et Valérie Ayestaraï qui réalise cette émission. Allez, une petite humeur. Loin de moi l'envie de gâcher la fête en pleine période de glaciation consommatoire et de déprime collective, mais trop de marchés de Noël tue le marché de Noël. Souvenez-vous, on fêtait d'abord la Saint-Martin, et puis après c'était la Saint-Nicolas, qui était fêtée en Allemagne, en Alsace, et pour l'occasion, donc un grand marché de Saint-Nicolas prenait place dans les grandes villes. Pendant la sombre époque de la Réforme, le marché de Saint-Nicolas fut rebaptisé Christkindlesmarkt, le marché de l'enfant Christ, et c'est ainsi qu'en 1570, naquit à Strasbourg le plus célèbre des marchés de Noël d'Europe. Alors bien vite, de nombreuses villes et villages emboîtèrent le pas pendant les festivités catholiques de l'Avent. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le marché de Noël s'est reproduit aussi sûrement que les panneaux publicitaires, les lotissements, les ronds-points, le sanglier en forêt et l'algue verte en Bretagne. Ils sont partout. Aucun centre-ville désormais n'y échappe. N'importe quel parking central est transformé en ruelle de Megève, avec des lutins qui se les gèlent en bonnet rouge. Bon, enfin, c'est un petit peu faux, parce que grâce au succès de la conférence de Durban, cette année, on peut faire ses emplettes pratiquement en tongs et avec 13 degrés au mois de décembre. Bien, ces alignements de cabanes en contreplaqué, ce n'est pas, non, ce n'est pas une foire expo d'abri pour tondeuse à gazon. Non, c'est bien un marché de Noël, et oui. Seul lieu qui ne connaît pas la douleur de perdre son triple A, comme nous le rappelle justement Charbe dans Charlie Hebdo, qui a été inspiré par le sujet aussi cette semaine. Donc vous avez remarqué, plus le monde s'enfonce dans la crise économique, sociale, écologique, et plus fleurissent les marchés de Noël, et oui. Et aussi un autre argument de Charbe intéressant, c'est que notre gouvernement donc peut donner un argument en réserve pour défendre le nucléaire. Si on ferme nos centrales, plus de marché de Noël. Hein ? Ah oui, alors je suis pas sûr qu'en Alsace, du côté de Fessenheim, on apprécie forcément, mais c'est comme ça. Et puis le marché de Noël, c'est l'occasion d'acheter français. On vous le répète, mauvais citoyens. Un petit réacteur pour soutenir Areva, un TGV français pour aider Alstom, un Rafale offert si vous achetez une boîte de 500 centons. Voilà, en tout cas, rassurez-vous, la bière, le vin, le nez des commerçants qui a pris une belle teinte de dégustation, eux sont garantis d'origine 100% français. Alors, à part quelques marchés qui portent, mais vraiment réellement, hein, de vraies valeurs artisanales, hein, ça, il y en a. Le marché de Noël, c'est quand même devenu le symbole de la Disneylandisation de la France et des merdouilles de contrefaçon mondiale. Même les reines du Père Noël, sans papier, hein, le Père Noël, ont depuis longtemps troqué le traîneau pour un quad japonais. Et je le dis, à quand les marchés de Pâques, de Pentecôte, de la Toussaint, de la Saint-Glinglin pour relancer la croissance, première divinité en cette période. En attendant, c'est quand même nous qui tirons le traîneau des plans de sauvetage qui n'ont sauvé que ceux qui nous ont mis le harnais. Car dans le fond, on va prendre du recul, ces marchés de carton-pâte, bah évidemment qu'ils ne sont pas bien méchants, puis ils font du bien, et puis dans une semaine, ce sera remballé pour un an. Alors que d'autres marchés financiers, ceux-là, sévissent avec autrement d'agressivité. Et eux, c'est toute l'année. Allez, bon Noël, avec de bons produits achetés à de bons producteurs, il y en a plein. Voilà, bah je vous l'ai dit, deux marques. Et en fait, que vous entendez dans le générique toutes les semaines, c'est Marc Jolivet. Bonjour, cher Marc Jolivet.
Bonjour, et mes droits d'auteur, ils sont où alors ?
Bah oui, bah c'est ça, on va s'en occuper. On va s'en occuper.
Ah bah c'est incroyable, les écolos, alors.
Mais oui.
Procès. Ah oui. Non, bravo pour ce papier, je l'ai trouvé excellent. Très bon, merci, bravo.
Bon.
Ça me fait rire, c'est parfait, je vais le faire sur scène demain.
Ah bah il n'y a aucun problème.
Voilà.
Bah,
allez,
la salle Gaveau.
Ah,
la salle Gaveau, donc c'est très bien. Pour les 41 ans de spectacle, on va bien sûr y revenir. Et puis donc Marc Giraud aussi avec nous. Mais ce que je vous propose. Alors, non, vous, c'est pas trop les marchés de Noël, votre affaire. Comme
non,
a priori,
non plus, non plus. Il y a un moment que je porte plus de bonnets péruviens. Ils sont même pas solidaires, donc voilà.
Voilà. Donc ben, c'est ça. Comme ça, c'est fait. La France sauvage, on va y revenir parce que là, c'est un formidable cadeau aussi hein, du quotidien à l'exceptionnel avec vous. Mais on va tout d'abord s'intéresser donc à cette actualité. On va aller en Bretagne suite donc à cet échouage. Évidemment, ce n'est pas l'Erika, et fort heureusement, mais quand même, il y a ce bateau donc qui s'est ramassé donc pas très loin de l'Orient. Et donc, nous avons en ligne Laurent Dupérin, qui représente l'association Bretagne Vivante, qui fait un boulot absolument formidable. On va parler de biodiversité avec vous. Laurent Dupérin, bonjour.
Bonjour.
Alors, quel est le point aujourd'hui? Quelle est la situation donc, par rapport à ce Ria d'Étal, qui est une zone superbe et absolument sensible?
Eh ben, un milieu assez fortement touché, on va dire, quand même, sur la faune et sur la flore, en fait. Donc, on avait encore ce matin des salariés de notre association qui étaient là-bas pour faire le point, ainsi que des associations partenaires. Et notamment l'association LPO qui a mobilisé en force, là, hein, du coup, pour tenter de venir en aide aux oiseaux et parer aux premières nécessités. Quoi.
Mmh. On est sur un milieu, donc là c'est le sable, on va dire, qui est touché. On n'est pas dans une période de migration, fort heureusement, ce qui veut dire que beaucoup d'oiseaux sont déjà partis.
Tout à fait. On a, pour notre part, à Bretagne Vivante, on suit sur cette zone-là très spécifique le gravelot à collier interrompu, par exemple, qui fait l'objet d'un...
Attendez, vous dites les gravelots à collier interrompu, c'est le nom de la bête.
C'est le nom du petit oiseau qui a l'habitude de nicher sur ces plages-là du côté de la Ria d'Étel. Mais fort heureusement, en cette période-ci, la majorité des effectifs est descendue dans le sud de l'Europe. Donc, heureusement, ils ont échappé à la catastrophe.
Oui, alors bon, ce qui n'échappe pas forcément à la catastrophe actuellement, donc point d'interrogation, l'Ifremer est sur le coup, c'est nos amis ostréiculteurs, donc ils ne sont pas loin, donc ça n'a pas forcément, je ne sais pas où on en est, si ça a touché ou pas encore touché.
Alors ça a déjà touché les bassins en aval de la Ria d'Étel.
Oui.
Heureusement, pour la période de Noël, les huîtres de Noël étaient déjà dans les bassins, en fait, donc à l'abri. Donc les huîtres de Noël ne sont pas touchées, elles. Mais malheureusement, tous les naissins et pour la suite des opérations, ça va être vraiment problématique.
Voilà, donc c'est un navire qui contenait à peu près 190 tonnes de fioul. Donc évidemment, on va les pomper. On connaît donc les mesures, 5 mètres de profondeur et puis 1 km à peu près donc de longueur pour cette nappe. Merci à vous, Laurent Dupérin, donc, d'avoir fait ce point. Christian Buchet est avec nous, historien de la mer, directeur du Centre de la mer de l'Institut catholique. Alors là, on se pose évidemment des questions. On n'est pas forcément dans le cas d'un navire poubelle cette fois-ci, mais bon, comme d'habitude, on va dire qu'il y a un équipage qui est turc, c'est un navire maltais, etc. Et on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a pris la mer. Alors, quel est un petit peu, en prenant un petit peu de recul, votre sentiment? Bonjour Christian Buchet.
Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, c'était sans doute pas une bonne idée de partir comme ça jeudi après-midi, en milieu d'après-midi, alors qu'on savait que les vents allaient grossir, si vous voulez, durant cette seconde moitié de l'après-midi. Bon, il n'allait pas véritablement prendre la mer pour opérer sa traversée vers Londres, il allait se mettre à l'abri, si vous voulez, derrière des îles pour moins subir la tempête, et d'ailleurs en modifiant son ancrage, qui a eu sans doute de mauvaises manœuvres. Bref, il n'a pas réussi à réancrer, il a ripé, il a fini par talonner, il s'est échoué, on connaît la suite. Bon.
Non, mais comment se fait-il, par exemple, que d'autres bateaux soient restés donc à l'Orient? Il y a un capitaine à la retraite qui disait « Attendez, tout ça, c'est pour ne pas payer une journée de plus à quai. »
Ah bah, c'est évident que quand vous restez dans un port, vous payez des taxes, vous payez des droits, ce qui est tout à fait légitime. Donc il est probable, effectivement, que l'armateur, en tous les cas, ait jugé qu'à la limite, bon, le navire pouvait largement tenir, ce qui devait être le cas, à l'abri, effectivement, du Nil. Vous savez, heureusement, il ne faut pas exagérer non plus, les vents n'étaient que de 120 km/h, ce qui n'est pas une tempête, je dirais, des plus musclées, les creux étaient de 7 mètres, donc heureusement que les navires ne s'échouent pas par de telles conditions. Donc il y a eu forcément un problème, non pas technique, parce que visiblement les moteurs marchaient bien, mais visiblement un problème technique au niveau de l'équipage. Hein. C'est donc pas le cas véritablement d'un navire poubelle. Ceci étant dit, il faut être bien conscient, on ne peut pas demander aux autorités d'empêcher les navires de quitter les ports lorsqu'ils sont en bon état. Ils respectaient toutes les conditions, et il faut savoir qu'il faut aussi que les navires puissent sortir, puissent rentrer, les tempêtes, il y en a en permanence, et il ne faut pas non plus penser que nos ports ont la capacité d'accueillir tous les navires qui sont en mer pour qu'ils puissent venir s'abriter lorsqu'il y a une tempête.
Mais donc depuis,
là,
Christian
Buchet,
ça d'accord, non, mais depuis l'Erika, en fait, les autorités portuaires peuvent intervenir, mais ne rien imposer. C'est un peu ça.
Alors, elles peuvent intervenir, et notamment lorsque le navire ne correspond pas aux normes de sécurité, ce qui n'est pas un phénomène avéré. Là, ce n'est pas un défaut de structure de coque, comme ça a été le cas du Prestige de l'Erika, c'est probablement, il faut être très prudent, une mauvaise manœuvre de l'équipage. Hein. Mais encore une fois, c'est une très mauvaise idée, sans doute, de quitter le port de l'Orient, alors qu'une tempête s'annonçait. Encore une fois, il ne quittait pas le port de l'Orient pour faire normalement sa traversée, mais pour se mettre à l'abri, mais il fallait qu'il entre et il a ripé. Hein.
Quels sont, Christian Buchet, en quelques mots, les faiblesses encore, on va dire, de ce droit maritime pour qu'on
évite. Il faudrait tout reprendre au niveau du droit maritime. Vous savez, le droit maritime, il remonte quasiment au XVIe siècle. Le droit aérien, il est beaucoup plus récent, donc on a un droit beaucoup plus centralisé. Vous n'avez pas aujourd'hui un avion qui ne soit pas contrôlé et en altitude et en vitesse, etc., ce qui est loin d'être le cas des navires, et ce qui permettrait d'ailleurs, soit dit en passant, de lutter contre la piraterie si tous les navires étaient équipés effectivement de codes d'immatriculation, de transpondeurs, etc. Donc je crois que ça mériterait que nous mettions à jour le droit maritime, sans compter qu'il n'y a toujours pas de police de haute mer. Alors c'était impossible d'imaginer du temps de la guerre froide, profitons de la calmie, mais pour rester plus précisément sur le spectre de la sécurité maritime. Bon, il faut constater que depuis l'Erika et le Prestige, il y a eu énormément de choses qui ont été faites, notamment les paquets Erika 2 et plus encore le paquet Erika 3 qui est passé il n'y a pas si longtemps et avec bien des difficultés parce qu'il a fallu le faire adopter par un certain nombre de...
Et en deux phrases, le paquet Erika 3, donc qu'est-ce qu'on trouve dedans?
Écoutons le paquet Erika 3, justement, inspection systématique des navires à risque, etc., définition de zones refuge, etc. Mais tout ça pour vous dire, aujourd'hui, on a moins de risques dans les eaux européennes d'avoir ce genre d'accident. Là, ce n'est pas lié à un hiver poubelle. Hein.
Non, non, non.
Mais il faut savoir que vous avez toujours, d'après les calculs de mes étudiants, autant de naufrages qu'avant. C'est-à-dire qu'il faut en rester au gros bâtiment, je ne parle pas de la plaisance, etc., toujours 110, 115 naufrages de navires par an, ce qui veut dire que vous avez un naufrage d'un gros bâtiment tous les 2 ou 3 jours. Simplement, vous en avez moins dans les européennes, tant mieux, mais vous en avez beaucoup plus dans les eaux de l'hémisphère sud. Alors vous me direz, loin des yeux, loin du cœur, mais c'est l'occasion aussi de se penser véritablement sur la question. Il faut que la sécurité maritime augmente et se cale sur ce qui a été fait au niveau de l'Union européenne pour protéger, je dirais, l'hémisphère sud, ces pays pauvres, d'une pollution qui est majeure.
Merci beaucoup Christian Buchet pour ce petit point. Donc c'était notre actualité dans CO2 Mon Amour. Et maintenant, dans quelques instants, on va rejoindre Marc Jolivet, Marc Giraud et aussi Jean-Marie Pelt.
C'est au de mon amour, Denis Chessoux.
Marie-Lou repose sous la neige. Et je me dis, et je me redis. De tous ces dessins d'enfants que neige. Pour préserver la fraîcheur de l'île. De Malou en bande dessinée, je parcourais les bulles arrondies. Lorsque je me dis exclu de ces jeux érotiques, j'en fis une main. Se sentait pris au piège, tout droit de reproduction interdit. Moi naïf, je pensais que me protéger les droits du copyright opérant. C'est ainsi que Marie-Lou s'endort sous la neige carbonique de l'extincteur d'un sans dire.
Marie-Lou, mais évidemment Marie-Lou sous la neige, c'était Alain Bachung. C'est le cas actuellement, je sais que vous êtes en train de chaîner si vous êtes du côté de la Haute-Maurienne. Ah ben, tenez, là aussi Marc Giraud, pas très bonne nouvelle, j'ai des amis du parc de la Vanoise qui m'ont dit eh ben, y a un aigle, évidemment espèce protégée, qui vient de se faire buter, donc il n'y a pas longtemps. Donc il a été tiré, voilà. Alors c'est pas une fois de plus l'ensemble des chasseurs qui font cela.
Non, mais c'est quand même assez fréquent.
Mais c'est quand même extrêmement fréquent.
C'est pas une exception.
Non, ils se font effectivement de temps en temps des cartons. Alors Marc Jolivet, la 41 ans de spectacle. Moi, j'avais vu les 40 ans de scène. Donc là, ça va être à Gaveau. Je sais que vous allez en parler tout à fait abondamment chez ma copine Laurence Garcia entre 5h et 7h demain matin dans l'émission donc Chien et Loup. Oui. Mais quand même, les origines environnementales. Moi, je me souviens d'une chanson. Là, part trouvée, c'était le Père Noël était un écologiste. Oui, le Père Noël écologiste.
On veut plus de trains électriques, ni de jouets en plastique. On veut des jouets biologiques. On veut de la nature. Un ciel qui soit pur. Le Père Noël écolo. Première chanson, 1976.
Oui, et alors, chez Drucker. C'est parce que vous aviez rencontré ce Père Noël que vous avez eu cette vocation, ou bien parce qu'il y a eu un choc thermique, quelque chose, une rencontre avec quelqu'un?
Non, je suis un animal et j'ai peur de dire que, comme les animaux, vous savez, les chiens, ils aboient avant le tremblement de terre. Ben, ça doit être mon côté chien. Depuis toujours, je suis très amoureux de ma planète et quand on lui fait du mal, ça me rend pas gentil. Oui. Pour pas dire méchant.
D'accord. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est un
peu
comme...
Oui, mais c'est vrai. Voilà. Et après, au fur et à mesure de la vie, j'ai fait des actes citoyens poussés en me présentant à des élections. Et puis après, dégoûté un peu par le côté, il faut bien le dire, vert de la chose, je me suis dit que l'associatif était mieux. Et désormais, je travaille avec mon association Rire pour la planète.
Et ça, on va
avec
les enfants. Voilà. On va voir effectivement comment on peut sensibiliser les gamins. Alors, quelqu'un qui nous sensibilise bien, vous le connaissez, c'est Jean-Marie Pelt. Et vous allez voir, on s'est fait un petit sujet, on va dire, préventif avant Noël. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Je vois que vous êtes arrivé avec votre petit sachet d'aspirine. Alors quoi de neuf sur l'aspirine? Parce qu'on a déjà donc parlé de ce médicament qui est quand même un des premiers médicaments, enfin qui est peut-être un des plus utilisés.
Oui, c'est une très longue histoire. C'est en 1763 qu'un guérisseur anglais qui s'appelait Stone a déclaré que si le saule ne tombait pas malade alors qu'il avait les pieds mouillés, c'est qu'il avait quelque chose qui le protégeait contre les maladies qu'on attrape quand on a les pieds mouillés. Ensuite, il a dit, si le saule, quand on a coupé, qu'il devient un saule têtard, fait des branches très flexibles, qu'on appelle l'osier, donc s'il est flexible comme ça, c'est qu'il doit être bon quand on a des rhumatismes et qu'on est tout raide. Oui. Et il a dit, dans le saule, il y a donc un médicament à la fois pour les refroidissements et pour le rhumatisme.
Alors, il a fallu attendre quoi, le 19e siècle, que des chimistes s'en emparent?
Oui, c'est ça, et ils ont confirmé. Oui. C'est la fameuse théorie des signes. On en a souvent parlé, ils ont confirmé, et effectivement, en 1893, les laboratoires Bayer, qui avaient encore une bonne réputation, maintenant il faut les pesticides, donc c'est moins bien, les laboratoires Bayer ont donc mis sur le marché l'acide acétylsalicylique, qui est l'aspirine. Et l'aspirine est devenue très rapidement, par excellence, le médicament des refroidissements et le médicament des douleurs, qu'on appelle un médicament anti-algique.
D'accord, donc anti-algique, anti-infectieux, anti-rhumatismal.
Tout à fait. Et tout le monde se souvient encore de l'aspro ou bien de l'aspirine usine du Rhône, qui était la forme courante de l'aspirine. Et puis après, on s'est aperçu qu'il avait une tendance à favoriser les hémorragies gastriques et qu'il ne fallait pas en prendre trop. Et qu'il y avait des gens qui ont eu des incidents de parcours. C'est ce qu'on appelle les effets secondaires, dont on parle beaucoup actuellement pour les médicaments.
C'est un anticoagulant. Quoi.
C'est un anticoagulant. Oui. Alors, on a retourné pour mal en vert et on a dit, puisque c'est un anticoagulant, utilisons-le pour fluidifier le sang. Mm-hmm. Et commence donc une deuxième étape dans l'histoire de l'aspirine, où on le donne à des gens dont on veut protéger le système cardiovasculaire. Moi en particulier, et je prends de l'aspégique 160 mg tous les matins. Mmh. Nous sommes des millions en France à faire cela. Et alors, voilà-t-il pas qu'on vient de s'apercevoir que c'est bien qu'on fasse cela. Parce que l'aspirine est maintenant connue comme protecteur contre le cancer.
Mais pas tous les cancers, si, non?
Surtout les cancers colorectaux. Ah. Mais ce serait un protecteur très intéressant. Alors, il y a des études épidémiologiques qui ont été menées à des doses donc faibles, 75 mg ou 160. Si on les prend pendant des temps assez longs, eh bien, on a une diminution de 24% des risques de cancer colorectal. Et d'une manière plus générale, si on a déjà ce cancer, on réduit le taux de mortalité des personnes déjà atteintes. Mmh. Et ce sont des études qui ont été faites sur des milliers de patients. Et on a vu ensuite que d'autres cancers sont protégés aussi, à partir du moment où on l'a déjà pris pendant au moins 5 ans. Donc, dans la fameuse confrontation bénéfice-risque, mmh. on se pose maintenant une question. La question, c'est... Est-ce qu'il ne faut pas le donner à tout le monde pour avoir une protection généralisée?
Oui, on l'a rappelé, c'est aussi un anticoagulant.
Voilà. Non. Mais c'est en train d'être débattu. Mais ce que je trouve extraordinaire dans cette histoire, c'est ce rebondissement successif. Oui. Il a été, l'aspirine en tant qu'antialgique, un peu déquillé par le paracétamol, donc le doliprane, efferalgan, etc. Mais il s'est rétabli très rapidement comme anticoagulant. Et puis maintenant, voilà, TIPAC, il apparaît comme un protecteur contre le cancer. Ça montre que c'est une molécule formidable. Voilà. Eh bien, figurez-vous que cette molécule, elle est dans toutes les plantes. Et elle joue un rôle puissant dans la défense des plantes contre leurs agresseurs.
C'est-à-dire que toutes les plantes...
Toutes les plantes,
fleurs,
c'est une hormone. Oui. C'est une hormone de toutes les plantes. Quand une plante est agressée, qu'elle est piquée par un insecte qui va vouloir sucer sa sève ou par un champignon pathogène, eh bien, la plante va se défendre en sécrétant justement de l'acide salicylique. Ce n'est pas tout à fait l'aspirine, mais c'est pratiquement la même chose. Et du coup, la plante se met à fabriquer des molécules qui vont attaquer le pathogène, le parasite. Mm-hmm. Donc, c'est une hormone. Donc, on a découvert que finalement, c'est une des molécules vraiment tout à fait essentielles de la vie. Et c'est pour ça qu'elle a cette histoire extraordinaire, parce que c'est quand même une belle histoire. C'est quand même un médicament qui ne vieillit pas et qui n'a pas vieilli pendant quand même un siècle et demi, un siècle et quart, en tout cas sûrement.
C'est un médicament pour Pérus. À chaque fois, on redécouvre quelque chose.
Toujours, ça rebondit toujours.
Peut-être une quatrième histoire.
Oui, tout à fait. Ça rebondit toujours. J'ai beaucoup aimé cette histoire de l'aspirine, parce que c'est aussi le début de la grande industrie chimique en Allemagne. La grande industrie chimique commence au 19e siècle avec l'aniline, donc toute la synthèse des colorants, et avec l'aspirine qui a ensuite engendré plein de médicaments de synthèse. C'est une des premières synthèses simples, parce que dans le saule, il n'y a pas l'aspirine elle-même, il y a un précurseur de l'aspirine. Le mot aspirine vient de spirer, c'est le nom de la reine des prés. La reine des prés, c'est l'aspirée. Et l'aspirée, eh bien, elle vit les pieds dans l'eau aussi. C'est la même histoire de nouveau. Et on a mis A devant parce que c'est l'acide acétyl salicylique. Salicylique, c'est saule, et aspirine, c'est spirée. Donc l'aspirine a le nom des plantes qui l'ont engendrée.
Merci beaucoup Jean-Marie donc, pour cette histoire de l'aspirine avec donc, cette nouveauté. Puis continuez à prendre votre petite dose, que ça vous va très bien. Ça irrigue le cerveau de manière mais prodigieuse.
Oui, ça marche bien.
Ça marche bien.
Je n'en loupe jamais.
Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Et puis bien sûr, on vous retrouvera Jean-Marie la semaine prochaine. Et puis encore après, Marc Giraud, là vous écoutiez donc Jean-Marie Pelt. Et puis dans votre France sauvage, donc aux éditions de La Martinière que vous venez juste de sortir, on a un rapport entre le castor et l'aspirine. Racontez-nous cette histoire-là.
Oui, c'est que jadis, en fait, il y avait des fortes périodes de carême et les gens détournaient les commandements de l'Église et ils mangeaient notamment du castor parce que c'est aquatique, donc un petit peu hypocritement, ils disaient que c'était du poisson.
Oh, voilà.
Et le castor avait la réputation de guérir de toutes les maladies. Oui. Or, le castor se nourrit essentiellement d'arbres tendres comme le saule et le castor s'est bourré d'acide... Salicylique, justement.
Oui,
voilà,
oui,
le rapport est direct.
Alors, si je reste dans l'eau et que je rencontre mon raton laveur, je le croise aussi. Parce qu'en fait, l'entrée de cet ouvrage, là, on pourrait penser que c'est par les animaux. Non, c'est, au départ, c'est par les milieux que vous avez...
En fait, c'est 10 milieux naturels en France, très, très représentatifs de
la
France.
Les falaises bretonnes, la forêt, la Méditerranée, la garrigue, la montagne, le littoral nord... Le fleuve sauvage, les mille étangs, le bocage et la nature en ville. Donc ça, ce sont les entrées.
Et on se rend compte que dans la France, il y a tous les climats du monde. Il y a toutes les beautés du monde. On dirait que c'est un résumé des beautés du monde si on explore un peu. Vraiment, hein, on a un océan, on a une mer méditerranée turquoise comme les îles tropicales. On a une garrigue, on a une steppe naturelle avec des animaux du désert. Et si on monte vers la montagne, on a la verte vallée. Ensuite, on a les montagnes, les forêts, les taïgas, les toundras et les glaces polaires avec des lapins blancs, comme en Sibérie exactement. On a absolument tous les climats du monde.
Et notre raton laveur ?
Et notre raton laveur, lui, il a débarqué comme ça un petit peu par hasard. peut-être avec les GI de l'armée qui venaient nous libérer.
Oui, ils ont apporté le chewing gum.
C'est ce qu'on appelle une espèce invasive, qui n'est pas là naturellement, mais qui est tellement mignon. Voilà. Enfin bon, ça c'est un des gros problèmes des protecteurs de la nature, c'est qu'il y a des animaux qui détruisent un peu l'équilibre, mais en même temps notre rôle c'est pas de les éliminer. Et le raton laveur, il est typiquement un de ces animaux-là.
Oui. Alors Marc Jolivet, est-ce que vous avez comme ça des animaux de
prédilection? Vouloir éliminer tous les ratons laveurs? Non,
impossible.
Trop de Père Noël, oui, mais pas les ratons laveurs.
Oui, c'est ça. Simplement les Pères Noël quand il y en a, quand ils se reproduisent, effectivement beaucoup. Alors il y a aussi un autre livre là que j'ai entre les mains, et là on a un rapport assez direct avec vous, Marc Jolivet, qui s'appelle « Du goudron et des plumes ». Alors ça, je tiens à le mettre en avant. Alors, il y a un dessin de Sharp que j'ai cité tout à l'heure. C'est Charlie Hebdo qui fête avec la Ligue pour la protection des oiseaux, donc les 100 ans de cette Ligue des protections des oiseaux. C'est aux éditions donc, Les Échappées. Alors là, vous avez des dessins extraordinaires. Je ne vais pas m'amuser donc à tout vous raconter. Mais il y a un texte de vous sur le martinet. Alors racontez-nous votre amour du martinet, Marc Jolivet.
Bien, c'est le responsable, c'est Alain Bougrain-Dubourg. Voilà. Oui. On était il y a quelques mois à l'île de Ré, on était sur la plage, il était 20h et Alain se met à me... J'avais entendu parler du martinet, mais honnêtement, je ne connaissais pas bien. Et Alain s'est mis à me parler du martinet, des diversités de martinet. Et il s'est passé un truc incroyable. Il y a eu un désespoir terrible mélangé à un moment sublime. Le soleil se couchait et j'ai versé une larme. Alors Alain était très étonné. Il m'a dit, mais tu es très, très sensible ou je raconte très, très bien. Je crois que c'était un habile mélange des deux. Et du coup, j'ai écrit un texte sur les martinets pour le livre.
C'est donc le Apus, vous parlez
du... On les entend en ce moment.
Mais oui, et puis, ils sont en train de passer. Alors, non, je me disais que vous ne faites pas comme le martinet, parce que le martinet est capable, de, me semble-t-il, Marc Giraud, de voler en dormant.
Alors, il mange en dormant, il s'accouple, il mange en volant, il s'accouple en volant, ce qui est déjà assez acrobatique, et il dort en volant.
Oui, il dort, pardon. Parce que
c'est et ça. Il fait tout en volant. En fait, il se pose quasiment jamais. Apus, ça veut dire sans pied quasiment, donc c'est un apode. Il se pose quasiment jamais, sauf pour se reproduire.
D'accord. Et vous, Marc Jolivet, vous ne dormez pas sur scène, sur la salle Gabon?
Non, mais je
vous,
me reproduis faites... sur scène.
Mais bien
je
sûr.
Je ne dors pas, mais je me reproduis sur scène régulièrement.
Mais c'est... Oui.
Ça, c'est comme ça. On fait des...
Mais ça, c'est pour faire venir le public, vous dites ça. J'ai bien compris que c'était...
Oui, non, pas spécialement. Ah bon, c'est pour qu'on découvre qu'il y a une nouvelle variété d'humoriste.
Ah,
C'est une variété qui s'appelle le Jolivet.
Oui.
Qui a une ressemblance avec le martinet.
Je comprends très bien. Et est-ce que vous allez être accompagné par votre ours blanc? Là, d'ailleurs aussi, hein, sur ce, on a toujours ces symboles donc, de ces gros animaux, tel le panda, tel l'ours blanc. Donc là, on a un affectif. Bon, bah, si vous croisez un ours blanc, quand même, sachez que si vous donnez une tape amicale sur le dos, vous n'avez plus de tête. Bon, mais ça, c'est comme ça.
Eh bien,
mais peu importe. Mais...
On m'a amené à la 200e du spectacle, un vrai ours sur scène.
Aïe.
Ça a été terrible. J'étais pétrifié. Il y avait deux personnes qui le tenaient. Ça a été un moment absolument terrible. Mais Guy Laporte, mon partenaire de scène, et Sandrine Mazouko, la violoniste qui sera à Gaveau, ont été mettre un sucre avec leur bouche dans la bouche de l'ours.
Oui.
Je ne l'ai pas fait. Je reconnais. Il y a le public qui hurlait « Vas-y Marc, vas-y Marc !» Et je me suis dégonflé. J'étais pétrifié devant un vrai ours.
Oui, mais non, c'est peut-être pas plus mal non plus que vous ayez pris une certaine distance.
Je ne sais pas, mais c'était magnifique en tout cas, d'avoir ce vrai camarade à mes côtés.
Alors Marc Giraud nous rappelle dans cette France sauvage qu'au Moyen-Âge, la France en fait hurlait complètement parce qu'on entendait des loups absolument partout.
Mais oui, partout. Il y avait des loups dans tous les départements. Il y a eu des ours en Bretagne. Il y a eu, sans remonter à très très loin, il y avait des loups.
Ça, c'est un martinet qui s'est
pas
coincé
bien.
Les testicules en vol.
C'est ça.
Hein, qu'on ne comprenne pas ça pour un
non, mais absolument. Voilà. Donc, donc continuez, Marc.
Ça me trouble pas. J'écoute. Non, il y avait une multitude d'oiseaux, d'animaux dont on se rend plus compte de ce qu'on a perdu. Il y avait des vols d'oiseaux qui continuent de rigoler. Ça obscurcissait le ciel tellement il y avait des oiseaux. Il y avait des loutres à Paris pendant les deux guerres. Il y avait des loups, des ours, des lynx partout. Et maintenant, il nous en reste très très peu et il y en a encore trop pour certains.
Et alors, un hommage aussi aux oiseaux, puisque donc là je parlais des 100 ans de la LPO, mais on le retrouve aussi dans votre livre, Marc Giraud, c'est le macareux, donc le macareux moine, parce que c'est donc l'emblème de la LPO, voilà, 1912, donc le train arrive, et puis donc les chasseurs arrivent aussi, ils font des cartons absolument incroyables sur cet oiseau-là.
On ne se rend pas compte de tous les scandales de chasse qu'on a été obligé d'essuyer et qu'on essuie encore, on en parle un peu tout à l'heure. Là, c'était des trains entiers qui venaient de Paris pour que des chasseurs fassent des cartons sur les îles bretonnes, flinguent les macareux, par dizaines, par centaines, et ils repartaient avec les oiseaux qui agonisaient par terre et les tas de cartouches, et c'est tout. Donc ça a révolté certains des pionniers de la protection de la nature qui ont fondé en 1912 la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, qui est encore en pleine vigueur aujourd'hui, qui fête ses 100 ans en 2012.
Alors en pleine vigueur aujourd'hui aussi, choisi par Jean-Baptiste Audibert, c'est Adèle. Et puis on va parler aussi donc de réchauffement climatique, et on va poursuivre ce voyage à travers le spectacle et à travers le livre de Marc Giraud.
Your love anymore.
Voilà, je ne sais pas si Adèle est complètement contemplative dans la nature, mais en tout cas, c'est une source d'inspiration. Et c'est une source d'inspiration pour, évidemment, depuis très longtemps, les créateurs et les compositeurs. Souvenez-vous, Beethoven, la pastorale.
Observons attentivement. La Terre est un être vivant, composé de 70% d'eau, à l'égal de l'homme. L'eau, c'est le sang de la Terre. Le sol, c'est son placenta. Les rivières sont ses veines et les forêts, ses poils protecteurs. Ça fait mal quand on vous arrache les poils, hein ? Imaginez ce que ça lui fait à la Terre quand on déforeste l'Amazonie. L'infiniment grand, 7 milliards d'êtres humains. L'infiniment petit, France Inter, ici, à 14h, avec Denis et Marc, et le jeune homme. La Terre, mon amour, ma beauté, ma merveille.
Voilà, c'était pour vous, c'était donc en direct avec Marc Jolivet, aussi très inspiré par cette pastorale. Hein, donc on sait que l'orage va arriver donc voilà. Après. Et quel est le lien que vous faites régulièrement entre la musique classique et la nature et l'environnement ?
Eh bien, j'ai eu beaucoup de chance, I'm a lucky guy, de jouer Salgavo avec l'Orchestre Symphonique Lyonnais, notre spectacle comique symphonique. On m'a proposé d'être le premier humoriste à jouer cette salle. Ça fait 4 ans que je joue là-bas régulièrement pour les fêtes. Et je me disais, comment parler de l'écologie, comment parler de la planète, pour critiquer les verts, ça va, je sais faire.
Oui, c'est
donc j'ai eu l'idée de faire un hommage à Chaplin, c'est-à-dire de prendre la planète et sur la symphonie pastorale, de parler avec elle. Et au fur et à mesure du spectacle, elle meurt dans mes bras, elle se dégonfle. Et quand je demande au public, on a demandé, quel est le moment le plus fort du spectacle, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas le digicode ou la caisse. Mais cet instant avec la planète qui est le moment le plus puissant. Et souvent, j'ai les larmes aux yeux et le public aussi, parce que c'est ce mélange entre la musique sublime que Beethoven a touché et cette planète merveilleuse qui nous entoure. Et je me dis que c'est peut-être pas plus mal d'en parler de cette façon-là aussi, et qu'un clown peut faire rire, ou pleurer, ou sourire, et je l'assume et j'en suis heureux.
Et voilà. Puis tenez, un autre extrait cette fois-ci, il est signé Béla Bartók, alors concerto pour... On a choisi en fait le concerto pour violon numéro 1 et 2, Allegro Vivace, quand même, excusez du peu, Yehudi Menuhin. Et en fait, Marc Jolivet, c'est un de vos choix. Alors, vous nous avez dit, bon, oui, on pouvait avoir le concerto pour orchestre, mais il y en avait quand même un certain nombre. On s'est dit, on va prendre celui-là qui nous semble un peu tonique, un peu joyeux pour un samedi après-midi. Quoi.
Et c'est exactement ça, parce qu'après La Planète, Sandrine Mazouko rentre avec son violon et elle fait une danse slave, ouais, inspirée de Béla Bartók. Et nous faisons résonner Gavo, les gens tapent dans les mains, tapent du pied sur ce genre de sonorité. Elle est là, seule avec son violon, ouais, et nous faisons les danses slaves là-dessus. Donc, c'était pour moi le mélange que je ressens, que j'aime. J'adore Bartók, j'adore Beethoven, je me nourris de ses musiques.
Non, mais là, c'est pas la fin du monde, quoi, quand même. On n'est pas dans
c'est sûr, c'est oui, un peu, mais voilà, moi, je la vis comme la fin du monde.
Ah oui.
C'est ce que je dis. Moi, je dis, nous sommes, le désespoir est passé. Nous sommes dans une fin de civilisation.
Ah oui, c'est
une
sûr.
Une civilisation, oui, qui met des rires enregistrés sur les émissions comiques. Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est bien la fin de quelque chose. Bientôt, on va avoir des larmes qui vont couler le long de l'écran quand ça sera dramatique. Allons, réveillons-nous, bravo. Jean.
Et alors, sur cette musique, Marc Giraud, nous pourrions faire rentrer peut-être d'autres animaux ou bien d'autres milieux. Alors, qu'est-ce qu'on on fait voler un vautour peut-être? Qu'est-ce que l'on peut voir là?
Il y a tellement de choses en France.
On y va.
Hein, ouais. Il y a des phoques, des pingouins, ouais, des tortues, des castors, des loutres, des hippocampes, des requins géants, jusque dans les eaux de Bretagne. Il y a des ours, des loups, des lynx et même des ratons laveurs. Donc il y a vraiment de tout. Mm-hmm. Moi j'aime bien parler des toutes petites bêtes, celles dont personne ne parle. Mm-hmm. J'adore les mouches, bon, par exemple.
Bien sûr.
Les sols aussi.
Les sols, absolument.
C'est Julie qui m'a fait découvrir ça chez vous, les sols.
À mon livre. Ah, bah, merci, oui. Oui. Et notamment en montagne, justement, si on veut parler du réchauffement, il y a des animaux extraordinaires qui s'appellent les puces des glaciers. Ce ne sont pas des puces, ce sont des insectes quand même. Ce sont des champions. Hein. Dans la montagne, c'est des champions de l'adaptation. Ce sont tous des athlètes. Donc ça ne fait même pas 2 mm, mais ça saute sans élan. Ça fait 10 cm. C'est comme si nous, on sautait 100 mètres de long. Et ça résiste au froid, ça adore le froid. C'est très très bien entre moins 5 et plus 5 degrés. Donc ça vit dans les glaciers, hein, comme son nom l'indique. Mmh. Et surtout, ça ne résiste pas au chaud. À plus 15 degrés, ça meurt. C'est-à-dire que vous prenez cette petite bête dans la main, elle meurt de chaud. Alors imaginez, avec le réchauffement de la planète, ce que ça va donner. Et à côté de cette puce des glaciers, il y a des algues des neiges, pareil. Dès qu'il y a le moindre petit rayon de soleil, ça colore la neige en rouge, en jaune, en pourpre, en vert. C'est de toutes petites algues unicellulaires, mm-hmm, minuscules, qui volent, qui vont du Groenland aux Alpes, qui vont partout, qui ne vivent que dans la neige, justement. Et elles aussi, quel est leur avenir si la neige disparaît, comme on voit fondre les glaciers?
Alors justement, là nous avons en ligne Santiago Mendieta, qui est un homme qui qui a écrit un ouvrage qui est assez superbe, qui s'appelle « Pyrénées, à la croisée des climats, la montagne face aux défis du changement climatique ». C'est aux éditions Priva. Et donc, cette chaîne, en fait, elle constitue, on va dire, un marqueur qui est assez fort hein, de ces changements climatiques. Donc, c'est un livre, on va dire, bilan qui est consacré à ces bouleversements, hein, qui sont mesurés à l'échelle donc, de ce massif pyrénéen, avec les impacts sur la vie des hommes, sur l'économie, sur les milieux naturels. Et puis, on se dit que connaître, c'est commencer à s'adapter. Donc, ce titre-là, évidemment, Santiago Mendieta est porteur de plein de choses.
Ben écoutez, tout d'abord, le titre donc, parle des climats des Pyrénées, parce qu'en fait, la chaîne pyrénéenne est à la confluence de l'océan Atlantique, de la Méditerranée. Il y a un versant sud donc, qui est côté français, un versant nord, pardon, qui est côté français, un versant sud, qui est en Espagne. Et effectivement, ça permet d'avoir des climats et avec la géologie et l'altitude, ça fait une variété de climats assez invraisemblable.
Et puis nous sommes vers le sud et on a déjà donc dépassé plus de 1 degré depuis un siècle de réchauffement.
Et même davantage, puisque depuis 1990, le sud-ouest et même la chaîne des Pyrénées ont connu une augmentation de 1,1 degré. Donc ce degré, on l'a déjà dépassé depuis 1990 avec apparemment une accélération très brusque que l'on voit reflété sur la disparition inéluctable des glaciers pyrénéens, qui sont les plus méridionaux d'Europe.
Nous avons les glaciers qui fondent, nous avons alors les arbres, la forêt, comment ça se passe? On a 46% quand même du territoire côté français qui est recouvert de forêt, je crois que c'est davantage 60% côté espagnol, donc comment on réagit?
Alors au niveau des Pyrénées, il y a une reforestation vraiment très très importante depuis plus d'un siècle, donc ça c'est l'aspect positif. Et d'ailleurs, la végétation monte en altitude d'environ 3 à 4 mètres par an. C'est autant apparemment dû à un certain réchauffement ou un changement qu'à cette reforestation, puisqu'il y a moins de pression pastorale. Et donc, effectivement, la végétation a déjà commencé à s'adapter. Donc, on ne connaît pas précisément quelle est, on va dire, la péréquation entre le changement climatique et puis cette pression pastorale moindre. Mais déjà, on enregistre ces changements dans la végétation, avec notamment aussi des espèces telles que le hêtre et le chêne sessile, qui peuvent tout à fait s'adapter et monter en altitude.
Et puis il y a aussi donc, le régime de l'eau qui va changer Santiago Mendieta, c'est-à-dire que les glaciers sont des pourvoyeurs d'eau pour les fleuves, les rivières. Il y a quand même un fleuve aussi que l'on connaît bien, qui s'appelle la Garonne, qui irrigue tout le bassin, une grande partie du sud-ouest. Donc derrière tout cela, il y a aussi l'agriculture qui est en jeu.
Bon, les glaciers ont un rôle moindre, puisque là, ils sont réduits vraiment à la portion congrue. On estime que d'ici 2050, voire 2100, ils auront disparu hein, par un phénomène, on va dire, naturel. Et le réchauffement climatique, le changement climatique étant un accélérateur. Et au niveau de l'hydrologie, c'est surtout en fait un régime nival. La Garonne dépend essentiellement des précipitations, mais également de la neige. Et là, on s'aperçoit que depuis 1971, il y a une baisse de l'enneigement qu'on attribue entre 10 et 15 jours d'enneigement en moins depuis 71. Et c'est en train de s'accélérer. On estime que d'ici 2100, il pourrait y avoir un mois et demi en moins d'enneigement dans les Pyrénées. Donc effectivement, ça va affecter la consommation humaine et peut-être remettre en cause, notamment du côté du Béarn et dans la vallée de la Garonne, le système de l'irrigation avec le maïs, qui effectivement est un gros pourvoyeur d'eau.
Alors si on parle très rapidement des animaux, on peut penser au tétralis, au grand tétra d'ailleurs chez vous dans les Pyrénées. Est-ce que vous avez le grand tétra?
Le grand tétra à coque de bruyère.
Voilà, et les lagopèdes, donc c'est des espèces reliquaires qui remontent elles aussi chercher de la fraîcheur vers le nord. Et puis il y a un moment, peut-être qu'elles pourront plus monter très haut.
L'âge adulte, c'est des oiseaux qui sont quand même assez costauds, mais qui y a vraiment un problème avec les couvées, notamment dans la période juin-juillet, qui est la période critique, où on observe dans les Pyrénées une augmentation de la pluviométrie. Vous voyez, on parle de changement climatique, de réchauffement, mais à cette époque-là, cette époque charnière pour les couvées, on observe vraiment une pluviométrie supérieure, ce qui fait qu'il fait plus froid en altitude. Les poussins n'ont pas le temps de se réchauffer comme il faut, et donc souvent meurent faute de pouvoir manger et grossir.
Nous sommes en fait dans une redistribution des cartes de la vie actuellement et derrière tout ça, l'adaptation du vivant dont nous faisons partie également.
Voilà, et donc il faudra se demander est-ce qu'on doit conserver certains types d'habitats. Est-ce qu'il faut garder les stations de ski sous cette forme, notamment à moyenne altitude? On peut citer des stations comme Guzet-Neige ou même le Mourtis. Est-ce qu'il faut les équiper en canot à neige? Et si on a des étés, on va dire, assez secs, du type 2003, est-ce qu'on pourra suivre? Est-ce qu'on aura encore des réserves? Et est-ce qu'il ne faudra pas choisir entre l'alimentation et les canots à neige?
Merci Santiago Mendieta. Pyrénées à la croisée donc des climats, un formidable bouquin. Vous avez des images superbes des Pyrénées, c'est aux éditions Prima. Petite réaction Marc Giraud.
Tout le monde le dit sur le réchauffement et de voir ce qui s'est passé, les non-décisions d'Urban, c'est une vraie catastrophe. Je ne comprends pas que les médias, enfin ici on en parle, mais que les médias en parlent si peu, que personne, enfin, on va vers une sorte de fin du monde tranquille, joyeuse, sereine, et on ne veut pas voir. Non. Et justement, à ce propos, j'aimerais bien faire un... J'aime pas faire des compliments, mais quand même faire un compliment à Marc, parce qu'il arrive justement à nous faire rire avec des choses négatives, parce que nous autres, les écologistes, on a un vrai problème, c'est qu'on est confondu avec ce qu'on raconte. Oui. Moi, je suis un bon vivant, on se connaît un peu, je n'ai que des choses tristes à dire, parce que tout va mal. Et alors, on nous confond avec des emmerdeurs, genre, mais arrêtez avec vos trucs, c'est Noël, on est des troubles faites. Mais alors, quand est-ce qu'on va arrêter de se mettre la tête dans le sable, la tête dans le sable, je ne vous fais pas un dessin, c'est quand même le meilleur moyen de se faire avoir. Donc, levons la tête et essayons de prendre les choses à bras le corps, parce qu'il est grand temps.
Alors, Marc, je te fais une proposition en tant que Marc.
Ah ça y est, on se tutoie alors.
Mon association Rire pour la planète, ça prône une écologie joyeuse, innovante, avec les enfants, qui inventent le monde de demain. Acceptes-tu là d'être le parrain, un des nouveaux parrains de cette association? Allez, 1, 2, 3.
Oui.
Oui, l'événement est célébré. Viendras-tu avec nous faire un spectacle, jouer de la musique?
Ah mais volontiers.
Puisque je viens d'apprendre que tu es musicien.
Oui,
tu viens
tout à fait,
avec
oui.
nous et justement tu feras la musique.
Mais bien sûr, et
on
volontiers.
Montrera une écologie joyeuse, innovante.
Une joyeuse fin du monde.
Vous avez pas dit que l'adhésion c'était 10 000 euros, mais ça il le dit.
Ah oui, bah, ça, voilà, je savais que ça serait pas
honnête. Après, on verra de ça. Non, mais je suis sérieux.
Moi aussi.
Bienvenue au nouveau parrain. Merci à toi. Nous allons travailler ensemble.
Les graines que vous semez en fait, Marc, c'est vraiment en direction des enfants. Là, vous dites.
Oui, absolument. Moi, ça me mine trop d'écouter. Allô, bonjour Europe Écologie Les Verts, section Île-de-France, Nicole, tendance Noël, ma mère, anciennement Eva Jolie à l'appareil, à qui désirez-vous parler? Ça, je ne peux pas. Oui. Alors oui, je travaille avec les enfants. Alors oui, on parle de la planète. Et eux, ils inventent et on rit ensemble. Rire, c'est bon pour la santé, donc c'est bon pour la planète. C'est simple.
Voilà. Bon, c'est
bien. Voilà. Hein, j'ai trouvé un petit boulot.
C'est parfait.
Avec plaisir.
Bon, vous connaissez un sympathique chanteur qui débute, qui s'appelle Bob Dylan. Ça vous ferait plaisir?
Yeah.
Allez,
Bobby.
Yeah, on y va.
C'est de mon amour, les petites émissions qui respirent sur France Inter.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep. Saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gates for you. I want you, I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the queen of spades and talk with my chambermaid. She knows that I'm not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so. because you lied, because he took you for a ride, and because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad.
Bob Dylan, Bob Dylan. Je ne vais pas faire une transition subtile avec les lynx parce que ça va être très compliqué, Marc Giraud. Mais la France sauvage, du quotidien à l'exceptionnel, balade dans la nature de nos régions. France sauvage, on a donc ce lynx. Bon, il n'est pas aimé partout, on le sait.
Non.
Il est dans le Jura, il est dans les Vosges. Maintenant, on le retrouve aussi un petit peu dans les Alpes. Qu'est-ce que l'on peut dire de cette bête ?
D'abord, il a une utilité dans la nature. Hein. C'est le médecin des arbres, puisque c'est un carnivore. Il chasse, il fait fuir les chevreuils. Donc, il les empêche de surpasser, de brouter les écorces. Donc il a vraiment un rôle, comme toute espèce. Même quand on ne sait pas s'il y a un rôle, il y a toujours un rôle. Et à la limite, même s'il n'y avait pas de rôle, c'est beau. Oui. Et voilà, déjà, qu'il y ait des lynx près de chez nous, mais si on ne les voit pas, pour moi, c'est magique, quoi. C'est de l'émotion. C'est l'essentiel. Et ce lynx, ça fait des années qu'on en a réintroduit. Mm-hmm. Des dizaines d'années qu'on les a réintroduits, et il y a toujours le même nombre.
D'accord, donc
alors qu'il se reproduit.
Oui.
Ça veut dire qu'il y a du braconnage tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Alors, comme vous êtes aussi le vice-président de l'ASPA, c'est-à-dire que vous êtes globalement détesté par les chasseurs, l'Association pour la protection des animaux sauvages.
J'ai quelquefois des mots doux.
Oui, vous avez souvent des mots doux. Non, moi, ce qui m'inquiète de plus en plus, c'est quand même de voir les accidents de chasse. Alors, bon, que les chasseurs se tuent entre eux, c'est malheureux, mais lorsque vous avez des gens qui sont innocents, qui vont cueillir des champignons, on en a pratiquement un par semaine.
De toute façon, c'est des drames humains. Oui. Quand un père tue son fils à la chasse,
c'est une horreur, bien sûr.
Un oncle à son neveu, mais ça arrive tout le temps. Et en France, il n'y a aucune réglementation. Il y en a eu, et chaque année, chaque loi chasse, on a enlevé les réglementations. On a le droit à peu près de tout. C'est le seul sport qui n'est pas réglementé, la chasse. Vous vous rendez compte ? C'est le plus dangereux. Les gens sont armés, ils ont des armes pendant les battues qui sont plus puissantes que celles des gendarmes. C'est-à-dire que ça peut tuer à un kilomètre. Donc une balle perdue, c'est grave. Il y a des dizaines de morts tous les ans, quand même. Alors on nous dit, il y en a ailleurs. Oui, mais ça, c'est quand même vraiment, vraiment un drame. Et il n'y a pas de sanctions. Je vous prends juste un exemple, un chasseur qui a tué un ado de 12 ans, il a eu 18 mois de prison avec sursis, relâché. Il recommence, il tue un autre chasseur, et il a eu 3 ans de prison avec sursis.
C'est
donc
horrible.
Si vous voulez tuer quelqu'un, vous passez votre permis, vous faites passer ça pour un homicide involontaire, et vous n'avez rien d'autre qu'un retrait de permis pendant 5 ans, et puis voilà,
oui.
C'est un vrai drame.
Bon, alors évidemment, une fois de plus, on va pas mettre tout le monde dans le même sac.
Ce qui est embêtant aussi, c'est qu'on peut chasser beaucoup d'espèces, c'est en France qu'on chasse le plus souvent, le
oui,
plus longtemps, et jusque dans les réserves naturelles, personne ne sait que dans 70% des réserves naturelles, on peut chasser. Dans les parcs nationaux qui vont être créés maintenant, on peut chasser dans le parc des Calandes, par exemple. Non seulement on peut chasser, mais on peut lâcher du gibier, on peut chasser à la glu, qui est un truc cruel et horrible. Alors qu'est-ce que ça signifie, parc ou réserve ? Pourquoi on met tant de pognon pour protéger, soi-disant, des espaces qui n'ont aucune protection, ni sur le papier, ni sur le terrain ?
Il y a une activité que vous aimez beaucoup aussi, c'est le déterrage. Le déterrage de renards et de blaireaux en particulier.
Ça, c'est l'abomination totale. Alors je ne dirais pas que les chasseurs sont sadiques, c'est comme pour la corrida. Je dirais juste qu'ils sont totalement indifférents à la souffrance animale. Et ça, pour moi, c'est grave. C'est-à-dire qu'ils vont déterrer des blaireaux dans leur terrier avec des petits chiens qui s'appellent les terriers, justement, qui sont très, très vifs, très, très vigoureux. Donc, les chiens vont dans les terriers, acculent les animaux au fond des terriers. Donc, les chasseurs mettent l'oreille sur par terre. Donc, ils savent où c'est. Ils déterrent. Ils attrapent la bête avec d'énormes pinces métalliques, mais par n'importe où, hein, par les gencives, par la queue, par la patte, n'importe où.
C'est-à-dire qu'un accouchement au forceps ou au fer, c'est la rigolade d'à côté.
Et ils l'achèvent à coups de dagues quand tout va bien, à coups de crosse, où ils les donnent agonisants aux chiens, et ça se passe comme ça.
Et
en France, il y a eu des concours de déterrage. Il y a quand même 40 000 déterreurs en France. Hein. Il y avait des concours de déterrage où on flinguait tout ce qu'il y avait. Au moins, si on ne flinguait pas, on bousillait. Et grâce à l'ASPA, il y a quelques associations qui sont associées, justement, on a arrêté les concours de déterrage. Donc, il y a quand même quelques victoires, mais ça, c'est pas terminé du tout.
J'aime quand vous dites 40 000 déterreurs, parce qu'on peut écrire déterreurs aussi en deux mots.
Absolument, c'est la terreur.
Sur un sujet, on va dire, différent, la semaine dernière, on était avec Jean-Louis Etienne, donc on en a parlé de plein de choses. Alors, j'ai eu des réactions très contrastées, parce qu'en même temps, c'est quelqu'un qui a une vraie sensibilité, évidemment, environnementale, qui est tout à fait pour les énergies renouvelables et qui, en même temps, bah, ouvrait la porte à la science en se disant pourquoi pas ITER, etc. Si je vous dis ITER, Marc Jolivet.
Alors, moi, je vous dirais d'abord, depuis le début de l'émission, je vous entends parler de réchauffement climatique, c'est changement climatique. Tout de suite, mais réchauffement, oui. Changement climatique. Changement. Pareil pour ITER, vous êtes toujours à accuser le nucléaire, le nucléaire, le nucléaire. On dit ça fait des enfants différents. Non, ça fait des enfants normaux. Non, ça fait des enfants différents. Comprenez-vous ? ITER. Alors, eh bien oui, ITER, il faut passer plusieurs générations. Il faut qu'il y ait des ITER partout. Alors, bien sûr, les Japonais, Fukushima, mais ils sont cons, les Japonais. Ils ont du sismique. Nous, le sismique français, ça bouge pas. C'est ça la grosse différence. Vous comprenez ? Le sismique, à nous, il est costaud. On peut construire 50 centrales nucléaires, il n'y a aucun problème. Et si jamais il y a un jour, il y a un problème, ça sera bien la faute des écologistes. À force de gueuler tout le temps, vous allez voir ce qui va arriver, vous allez voir ce qui va arriver. Eh ben voilà, ça arrive. Merci Greenpeace. Ça sera bien de leur faute. Voilà. Hein, ils ont prouvé qu'on pouvait pénétrer à l'intérieur. Ils sont responsables. Si un jour on pénètre à l'intérieur, ils terrent, mais oui, du nucléaire partout, chacun chez soi. Sa petite centrale, qu'on en ait partout.
Bien, alors on va le raccompagner, mais merci, merci beaucoup.
Et que la pollution finisse par attraper les martinets qui crèvent, ces enfoirés de martinets. Voilà. On peut même pas les déterrer. Alors, ils sont dans les airs.
Il est à la salle Gabor. Jusqu'au
31 décembre.
Demain matin, bah, vous continuerez tout ceci donc, chez ma copine Laurence Garcia entre 5h et 7h entre chien et loup. Marc Giraud, donc la France sauvage du quotidien à l'exceptionnel, balade dans la nature et de nos régions, les Pyrénées.
Il y aura des documentaires sur Arte qui vont avec.
Ah, bah alors dites donc, si en prime on a tout ça, c'est formidable. L'association Rire pour la planète, on est en retard, oui, franchement. Allez, pub.